Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, la France rend hommage à l'un de ses héros, Maxime Blasco, caporal-chef tombé au Sahel la semaine passée. Nous allons vous raconter cette cérémonie très émouvante. Elle vient de s'achever en présence d'Emmanuel Macron, en présence aussi de la compagne du militaire et de son petit garçon, 8 ans, béret des chasseurs alpins sur la tête. Les autres titres de l'actualité. Actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Après des dizaines de signalements et de témoignages, une enquête pour viol ouverte contre un gynécologue réputé à Paris. Information RTL et explication dans un instant. À suivre aussi, après le gaz et l'électricité, la poussée des prix des carburants à Paris. Le seuil des 2 euros le litre de sans-plomb a même été franchi. Et puis l'entrée en vigueur aujourd'hui de la procréation médicale assistée pour toutes les femmes, comme un nouveau chapitre qui s'ouvre, cette fois pour de vraies réactions dans un instant. Les courses dans le Quintet Plus à Argentan, il fallait jouer le 12, le 5, le 9, le 10 et le 16.
À suivre également 50 nuances de vert. Sandrine Rousseau sera notre invitée dans un quart d'heure. Écolo radical, elle a frôlé la victoire hier à la primaire, mais maintenant va-t-elle soutenir Yannick Jadot? Dans une demi-heure, dans les dessous de l'actu, ce sera cette fois 50 nuances de bleu, puisque les Républicains se déchirent sur la position à adopter face à Éric Zemmour. À 18h40, on défait le monde. Vos 20 minutes d'actu plus inattendues avec Cyprien Sini et l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme?
Ce soir dans On défait le monde, on dévoilera les secrets des sondeurs. Vous comprendrez comment sont faits les sondages qui rythment cette pré-campagne présidentielle. Au menu également, un séjour à Villefranche-sur-Mer et la belle histoire d'un petit Français de 6 ans avec la reine d'Angleterre.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et débattre autour du Sahel et des écolos. Tout au long de l'émission, des points météo avec vous, Louis Baudin, bonsoir.
Bonsoir Julien.
La tendance?
Plutôt bien, puisque c'est un jour sur deux. Aujourd'hui on a eu la pluie, donc demain on aura du temps sec. Alors attention aux températures, on pourrait se rapprocher des gelées demain matin.
Ouh là là, le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une information que RTL vous a révélée cet après-midi. Une enquête pour viol est désormais ouverte à l'encontre d'un éminent gynécologue des hôpitaux de Paris.
Nouvelle étape dans cette affaire dont on vous parlait dès hier, avec des témoignages extrêmement forts. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va réentendre l'un de ces témoignages. Marie avait été auscultée il y a 3 ans par ce spécialiste de l'endométriose.
Au moment du toucher vaginal, alors déjà il ne m'a pas averti, rien du tout. Il m'a fait très très mal. J'ai pleuré, je lui ai demandé d'arrêter et il m'a répondu que je chipotais, qu'un toucher vaginal ne faisait pas mal. Du coup, il a enfoncé les doigts encore plus loin, tout en appuyant sur mon ventre, malgré mes larmes. J'ai attendu que ça se finisse, je me suis rhabillée, j'ai pris mes papiers et je suis partie, en larmes du cabinet.
Bonsoir Gauthier Delambugard.
Bonsoir.
Certaines des patientes du professeur Daraï ont signalé des violences dès 2014. Des dizaines de femmes se sont manifestées et désormais donc la justice s'y intéresse.
Oui, d'après nos informations, une enquête a été ouverte hier par le parquet de Paris pour viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans. Cela fait suite à une plainte déposée vendredi dernier par une jeune femme âgée de 17 ans au moment des faits. Selon les informations de RTL, cette ancienne patiente raconte dans cette plainte sa consultation avec le grand spécialiste de l'endométriose. D'après son récit, ce jour-là, en 2018, le professeur introduit un spéculum de manière très violente dans son vagin sans la prévenir, puis il reste sourd à ses protestations de douleur. La jeune femme indique qu'Émile Daraï lui a ensuite infligé un toucher rectal malgré ses hurlements. Depuis une semaine, de nombreux témoignages similaires affluent sur les réseaux sociaux. Certaines femmes ont pris la parole, on l'a entendu sur RTL. Tout cela a poussé la PHP à lancer une enquête interne le 20 septembre dernier au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Tenon. Jusqu'ici, le chef de ce service, le professeur Émile Daraï, a toujours contesté les faits.
Et désormais donc, cette enquête ouverte, information RTL, signée Gauthier Delambugard avec notre service police-justice. C'était cet après-midi dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, hommage national rendu au caporal-chef Maxime Blasco, mort vendredi au cours d'une mission au Mali.
Cérémonie que vous avez suivie pour RTL, brise du génie et dont restera une image forte.
Oui, c'est l'image la plus glaçante de cette cérémonie, la sortie du cercueil de Maxime Blasco porté par 9 de ses camarades, des chasseurs alpins, et derrière, tenant la main de sa maman, le fils du soldat décédé âgé de 8 ans, portant la tarte, vous savez, ce béret à large bord typique des chasseurs alpins. La famille et le président de la République ont accompagné la dépouille de Maxime Blasco, franchissant la porte de la cour des Invalides sur laquelle flotte le drapeau français en berne. Quelques minutes auparavant, c'est d'ailleurs vers lui, Ethan, 8 ans, que le président Macron s'est dirigé en arrivant dans la cour des Invalides. D'une tape sur la joue et de quelques mots, il a tenté de le réconforter avant qu'au son des tambours, le cercueil du sergent Blasco fasse une entrée glaciale dans la cour des Invalides. Puis le président de la République a décoré à titre posthume Maxime Blasco.
Sergent Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur.
Maxime Blasco sera honoré une dernière fois par ses camarades du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, demain dans l'après-midi.
Brise du génie aux Invalides pour RTL.
RTL, 18h05, avis de gros temps sur la Manche, avec toujours la pêche au cœur des perturbations.
C'est le dossier épineux post-Brexit. Quel accès pour les pêcheurs européens et notamment français aux eaux territoriales britanniques? Aujourd'hui, l'île anglo-normande de Jersey a tranché. 95 licences accordées, 75 demandes écartées, mais personne n'a été refusé, selon Ian Gorse, le ministre des Affaires étrangères de Jersey.
Non, ce n'est pas du tout une décision politique, c'est une décision technique et précise, basée sur des données. C'est vrai que les esprits s'échauffent. Si le gouvernement français pense que ces données nous permettraient de distribuer plus de licences, alors travaillons ensemble. J'espère que le gouvernement français fera de son mieux pour faire respecter les conditions de l'accord qui a été négocié.
Le ministre des Affaires étrangères de Jersey avec Marie Billon pour RTL, et la réponse de la France, justement, ne va pas se faire attendre. Il y aura rétorsion, promet la ministre de la Mer, Annick Girardin.
Ce que j'ai proposé aux professionnels, c'est de me laisser le temps, c'est-à-dire 15 jours, de préparer toutes ces ripostes et de dire aux Britanniques quelles sont cette fois-ci les mesures de rétorsion que nous mettrons en place. Il n'y a plus d'échéance possible. Aujourd'hui, c'est un ultimatum que nous poserons, que la Commission posera, pour que nous ayons des réponses positives à nos demandes.
La ministre de la Mer, Annick Girardin, notait qu'outre-Manche, l'autre sujet du moment, c'est toujours celui des pénuries dans les stations essence, faute de chauffeurs livreurs, notamment 150 chauffeurs de l'armée, pourraient être déployés dans les prochains jours.
Et la situation dans les stations essence surveillée aussi de près en France, parce qu'il n'y a pas que le prix du gaz qui flambe. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h09, si vous écoutez RTL en ce moment dans votre voiture, tendez l'oreille parce que voici une nouvelle illustration de la flambée des prix de l'énergie. Une station-service qui affiche, tenez-vous bien, un litre de sans-plomb 98 à 2 euros.
Station du 16e arrondissement de Paris où Lucille Besse a rencontré pour RTL des clients stupéfaits.
C'est un vol, on le sait, mais on n'a pas le choix.
Pour les besoins de son travail, Sergio circule toute la journée dans Paris sur son scooter.
Combien ça vous coûte un plein?
Là, c'est 24 euros. Je mets normalement 19 euros chez moi à Cergy-Pontoise. Il y a 5 euros de différence sur 10 litres.
À côté, Victor grimace devant le compteur de la pompe à essence.
20 euros, ça fait 10 litres, alors que d'habitude, j'ai peut-être 13 ou 14 litres.
Pourquoi vous avez quand même décidé de venir ici?
Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous qui est juste à côté et j'avais pas d'essence.
Abdelkader est lui aussi choqué par les prix pratiqués ici. Habituellement, il paye 1,45€ le litre d'essence en banlieue parisienne.
J'ai mis 5 euros pour dépanner. 2 euros le litre, c'est trop abusé.
À la pompe d'à côté, Tom remplit le réservoir de son petit scooter.
On rend bien compte que ça va devenir vite impossible à payer, quoi.
Jordan, lui, faisait son dernier plein d'essence.
Ça a toujours été plus cher que la norme, mais là, ça a vraiment explosé. Ça coûte très cher de rouler à l'essence.
Le trentenaire a pris une décision radicale. Dès la semaine prochaine, il roulera dans la voiture électrique qu'il vient d'acheter.
Et hier, 2 autres stations seulement en France vendaient l'essence à un tel prix. Sur l'Île-Dieu et sur une aire d'autoroute, ces derniers mois tout de même, les prix des carburants ont grimpé. 1,60€ en moyenne le litre de sans-plomb en juin dernier. 1,64€ pour ce mois de septembre.
Et ce n'est sans doute pas fini parce que le prix du baril de pétrole a atteint hier les 80 dollars pour la première fois depuis 3 ans.
Ils ont fait de leur témoignage à la barre une occasion de s'adresser directement à l'un de leurs bourreaux au procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, une des victimes s'est tournée vers Salah Abdeslam. Cet homme faisait partie d'un groupe de Serbes venus vendre des écharpes près du Stade de France quand il a été blessé par l'explosion.
Le récit de son témoignage avec Anne Lehenaf, maintenant au Palais de Justice de Paris pour RTL.
T'es un lâche, t'as pas gardé ta ceinture explosive. Il fixe l'accusé pendant plusieurs secondes. Nous, on va avancer, on va essayer. Eux, ils n'avanceront jamais, souffle Vladimir, en larmes, tout de noir vêtu. Sa compagne d'alors a reçu 17 boulons dans le corps, elle a frôlé l'amputation d'une jambe. Tina, elle, a été projetée au sol par l'explosion du troisième kamikaze. Je vois ma mère avec des morceaux de chair partout. Je tourne la tête, je vois un os, j'ai une fracture ouverte du bras. Elle a passé 6 mois à l'hôpital. Son avocat précise que son état de stress post-traumatique est maintenant définitif. Un autre marchand d'écharpes s'avance à la barre. Il a 54 ans, il en fait 10 ou 15 de plus. J'ai fait venir ce soir-là des gens qui n'étaient pas prévus, je me sens un peu responsable. Moi, je suis vivant parce que j'étais de biais. Tout mon flanc droit a été criblé de boulons. Ma femme a reçu des boulons en pleine tête. Son bras droit est mort. Vous la voyez là, dans son fauteuil. Elle a encore son petit charme, hein, mais c'est un enfant de 5 ans dans sa tête. Un légume à vie, m'ont dit les médecins. Je me réveille le matin, je n'ai plus rien. Plus de but dans la vie. Il tend le doigt vers les accusés. Je suis comme eux, en fait. Je suis dans une cellule.
Un récit signé Anne Lehenaf pour RTL. La condamnation aujourd'hui du magazine ultra-conservateur Valeurs Actuelles pour injure publique à caractère raciste, en cause un article datant d'août 2020 dans lequel la députée insoumise Danielle Obono était dépeinte en esclave.
RTL, 18h12, c'était un espoir, c'est désormais une réalité. Toutes les femmes vont désormais pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée dans notre pays.
Après le vote de la loi, fin juin, les décrets d'application ont été publiés aujourd'hui au Journal officiel, dernière étape du parcours législatif et la perspective d'un nouveau chapitre pour Élodie, 32 ans.
Quand la loi est passée, on s'est dit enfin, on l'attendait depuis longtemps. La FIV, je ne voulais pas la faire à l'étranger. On a appelé, nous, le centre de PMA de Nantes pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. 6 à 9 mois d'attente à partir de juillet. Donc logiquement, début d'année prochaine. C'est de la joie, oui, oui. C'est un nouveau parcours qui commence. On est très contente que ça puisse se passer dans des bonnes conditions, légalement, et en France et chez nous. On espère en tout cas que ça va s'accélérer, que ça ira relativement vite maintenant.
Voilà, la joie d'Élodie, jointe pour RTL par Odile Pouget.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec la sortie annoncée d'un album déjà mythique sans même avoir jamais été dévoilé, en tout cas jamais officiellement, cet album s'intitule Toy. David Bowie, qui se faisait appeler à l'époque David Jones, l'avait enregistré au tout début de sa carrière dans les années 60, avant de retravailler, de réenregistrer ses chansons en 2001. Mais là encore, l'album n'avait pas vu le jour à cause d'un conflit avec sa maison de disques. Ce Toy, album mythique, est donc annoncé pour très bientôt. Et un premier extrait a été dévoilé aujourd'hui. You've got a habit of living. Voilà le titre de cet extrait dévoilé aujourd'hui, 5 ans après la mort de David Bowie.
Vivement l'album, merci beaucoup Marion. Je devine le sourire de Louis Baudin derrière, derrière son masque, qui est enthousiaste.
Ma génération, ça donne.
Exactement, dites-nous le temps, mais c'est intemporel David Bowie. Le temps, alors dites-nous tout pour demain.
Et donc, demain, retour d'un temps sec pour tout le monde. Dès le matin, le soleil s'imposera quasiment partout. Il y aura un petit voile nuageux parfois dans les régions de l'ouest, mais sans conséquence. On oublie le parapluie demain et en cours d'après-midi. Ce sera encore mieux parce que les quelques brumes, brouillards, nuages du matin se seront dissipés. Il en restera un tout petit peu sur le littoral de la Manche où d'ailleurs le vent sera assez fort, jusqu'à 70 km/h, ailleurs du soleil. Mais des températures qui, à l'inverse, vont baisser le matin. Bah oui, comme le ciel sera dégagé en cours de nuit, on aura peut-être les premières gelées en pleine dans le centre ou encore dans le nord-est. Quelques gelées blanches, on n'en sera pas très loin. Donc fraîcheur le matin et l'après-midi sera à peu près comme aujourd'hui. 17 à 19 degrés dans la moitié nord. C'est à peine de saison. 19 à 21 dans le sud et encore 25 à 27 degrés près de la Méditerranée. Et ça bouge pas. C'est toujours l'été pour l'instant.
Toujours. Merci Louis. Une pause et ensuite sur RTL, Sandrine Rousseau sera notre invitée. Elle porte une écologie radicale. Elle a frôlé la victoire hier à la primaire verte avec 49% des voix. Et maintenant alors, va-t-elle soutenir le vainqueur Yannick Jadot? Le rassemblement est-il envisageable? Nous allons lui poser toutes ces questions dans un instant sur RTL. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h, 18 minutes, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL et ce soir, nous nous interrogeons. Est-ce que le rassemblement est possible chez les écologistes? Hier soir, Yannick Jadot a été désigné candidat à la présidentielle. Il a gagné de justesse la primaire, 51% des voix contre 49% pour Sandrine Rousseau, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Sandrine Rousseau.
Bonsoir.
Vous avez porté pendant cette campagne une écologie plus radicale et dès l'annonce des résultats hier, vous avez prévenu en quelque sorte Yannick Jadot ne pourra pas ignorer votre score. Vous l'avez justement rencontré cet après-midi. Alors, est-ce qu'il prend en compte vos idées, votre dynamique ?
J'ai pas l'impression qu'Yannick Jadot ait perçu l'ensemble de la dynamique. J'ai pas senti qu'il avait entendu l'importance de porter la radicalité comme étant une transformation de notre société, de notre économie, mais aussi de la structure du pouvoir dans les 5 prochaines années. Et je n'ai pas complètement entendu non plus sa volonté de faire en sorte que quelque chose d'innovant se passe dans cette présidentielle. Mais ceci dit, je suis sûre que maintenant, et suite à notre rencontre, il y a plein de possibilités pour qu'il l'entende et qu'il l'intègre. Et donc, je lui dis juste que là, c'est une question pour gagner. En fait, c'est une question fondamentale pour gagner. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner sur une ligne purement réformiste. La preuve, c'est-à-dire que tout le monde disait dans cette primaire que Yannick Jadot allait gagner haut la main. Manifestement, voilà, ça n'est pas complètement le cas. Et quand je dis ça, je dis juste que la ligne que j'ai portée est une ligne qui finalement correspond à une attente sociale importante, forte, puissante.
Ça veut dire que cet après-midi, c'était un dialogue de sourds entre vous deux ?
C'était un dialogue à ce stade peu constructif, mais c'est aussi normal, c'est-à-dire qu'on est 24 heures après la primaire, c'est des moments de négociation, c'est des moments qui sont simples pour personne, ni pour lui ni pour moi, et moi je l'ai vraiment refélicité de sa victoire. Voilà, il a gagné, il y a aucun doute là-dessus, mais juste qu'il entende que c'était une victoire courte et que c'était une victoire qui aussi se faisait un peu bousculer par une autre ligne qui était assez différente et que cette ligne-là, elle a amené des gens à la politique, mais vraiment beaucoup, et des gens qui n'y croyaient plus. Elle a levé un espoir, et cet espoir-là, il ne faut pas le décevoir.
À la mi-journée, vous avez expliqué, je vous cite, que Yannick Jadot devait entendre que les courbes étaient en train de se croiser. Pour vous, avec quelques jours de plus, cette primaire, vous la gagnez ?
On met toujours Paris en bouteille, mais de fait, j'étais quand même portée par une dynamique. Et ça, je crois, et cette dynamique, elle a fortement pris, évidemment, les dernières semaines de la campagne, ce qui a été un peu juste pour transformer l'essai. Mais cette dynamique était réelle et puissante, et vraiment, elle était partout. Elle était partout. Partout dans le monde politique, on commençait à s'interroger sur les notions d'écoféminisme, de radicalité, de réduction du temps de travail, de revenus d'existence. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas dans le paysage politique. Et c'est ce que j'ai amené. Et ça a vraiment ouvert des portes à plein de personnes et ça a ouvert l'envie à plein de personnes. Il ne faut pas laisser retomber ça.
Quand on vous entend, on s'interroge. Alors, vous l'avez dit, ce n'est simple pour personne 24 heures après la
Bien
primaire.
Sûr.
Mais là, à l'instant T, 18h22 sur RTL, est-ce que vous appelez ceux qui ont voté pour vous à voter Jadot comme la primaire vous y engageait?
Mais moi, je pense que ce mouvement-là n'est pas automatique. Moi, je suis loyale. Et moi, j'appellerai à voter Yannick Jadot. Mais ce mouvement-là n'est pas automatique. Et ça n'est pas un chèque en blanc, en fait. On ne peut pas, juste parce qu'on a gagné la primaire, oublier ce qui s'est passé. Et les personnes qui m'ont suivie, encore une fois, sont des personnes qui étaient très éloignées de la politique. Et beaucoup d'entre elles ne se reconnaissent pas dans la candidature de Yannick Jadot. Et d'ailleurs, tout le mouvement à LFI le montre. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir une partie de cet électorat qui s'est mobilisé et de cet enthousiasme. Et ce que je dis à Yannick, c'est que la seule possibilité que l'on ait de gagner, la seule, c'est de prendre en compte ce mouvement-là et de leur donner des gages. Et que ces gages-là, ça n'est pas juste mettre un mot dans un discours comme prédation. Alors, c'est bien plus que cela.
Parlons des gages, justement. Est-ce qu'il y a des éléments, des propositions concrètes qui sont essentielles pour vous et que vous souhaitez voir figurer dans ce qui sera le programme du candidat Yannick Jadot?
Mais bien sûr, il y a des propositions comme, par exemple, le partage du temps de travail qui me semble indispensable, le revenu d'existence qui me semble indispensable. Mais au-delà de ça, il y a aussi une manière de faire de la politique, une manière de porter les choses. Il y a une forme d'incarnation des combats. Et que je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Parce que quand bien même, et je le dis très clairement, Yannick Jadot reprendrait l'intégralité de mon programme, que je pense qu'il ne susciterait pas la même adhésion des personnes qui m'ont suivi dans cette primaire. quand bien même il prendrait l'intégralité.
Alors, qu'est-ce
parce
que vous
qu'il s'est passé quelque chose
quelque
au-delà de cela. Pardon ?
Vous souhaitez qu'il incarne ce programme, que vous puissiez l'épauler peut-être pendant les mois à venir ?
Ah, mais je pense qu'il nous faut intégrer en effet la dynamique présidentielle. Et lui qui se présente comme le grand rassembleur et qui a fait l'essentiel des titres là-dessus, je lui dis c'est maintenant qu'il faut le prouver.
Si Yannick Jadot n'accepte pas d'infléchir son programme, de rassembler selon vous, quelle sera la suite ? Est-ce que vous tenterez d'être candidate par vous-même ? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher des insoumis, vous avez parlé de la France insoumise à l'instant, qui assume aussi quelque part une radicalité.
Je pense que la loyauté en politique est une qualité. Et en tous les cas, elle est pour moi importante. C'est une manière d'être éthique en politique. Donc, je ne changerai pas cette ligne-là. Mais par contre, attention à ne pas perdre une partie de l'électorat. Parce que sans cela, on se plante. On se plante collectivement. Collectivement. Et en fait, là, aujourd'hui, et pour cette présidentielle 2022, sans doute plus que pour d'autres présidentielles, on a une responsabilité face à l'histoire. L'extrême droite monte de manière très forte, très importante, et ça n'est pas juste en mettant des mots, encore une fois, qu'on va inverser la tendance. C'est en créant une dynamique, c'est en créant quelque chose qui ne s'est jamais produit dans le paysage politique, quelque chose que l'on pose sur la table et qui font dire aux personnes « Ah, enfin, il se passe quelque chose en écologie politique ». Et moi, j'ai porté une écologie politique de gauche où je crois vraiment que ça a répondu à une attente. Donc, je dis à Yannick, sois innovant.
Vous parlez de responsabilité. Il y a sans doute des électeurs de gauche qui nous écoutent et qui se disent, bon, on voit que quelque part, la sortie de primaire peut être compliquée, que le soutien n'est pas forcément inconditionnel. Oui. On sait qu'il y a déjà 7 candidats à minima, hein, pour l'instant, à gauche, de Nathalie Arthaud à Anne Hidalgo, si on prend les sondages, si on additionne tous les chiffres, ça donne 30% des intentions de vote environ. Est-ce que ce n'est pas l'heure du compromis à gauche pour éviter, comme la dernière fois, de disparaître au sortir du premier
tour?
Alors,
je crois tout le contraire. Je pense que la seule chose qui nous permettra à gauche de gagner, c'est de lever un mouvement citoyen d'ampleur et d'aller chercher les abstentionnistes. Il y a une grande hypocrisie des représentants politiques et des représentantes politiques avec l'abstention. En général, tous les soirs d'élection, il y a des discours presque la larme à l'œil, disant « Oh, l'abstention est trop forte, c'est le premier parti de France ». Et juste après, on l'oublie. Là, aujourd'hui, ce que je propose, c'est que non seulement nous ne l'oublions pas, mais que nous en faisions la pierre angulaire de notre manière de faire de la politique. Et ça, ce serait changeant.
Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée. Merci. Sur RTL ce soir, 24 heures donc après les résultats de cette primaire écologiste, primaire où vous avez donc frôlé la victoire avec 49% des voix. On marque une pause sur RTL et ensuite dans les dessous de l'actu, les coulisses de la zizanie chez les Républicains parce que le parti se déchire sur la position à adopter face à Éric Zemmour. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Et l'heure de refaire un point justement sur les titres de l'actualité avec vous, Marion Calais.
Après sa défaite à la primaire écologiste, Sandrine Rousseau l'assure dans RTL Soir. Elle soutiendra Yannick Jadot, mais elle le met aussi en garde. Il n'y aura pas de chèque en blanc de la part des électeurs. C'est une information qu'RTL vous révélait ce mercredi. Une enquête pour viol sur mineurs de plus de 15 ans est désormais ouverte à l'encontre d'un éminent professeur de gynécologie de l'hôpital Tenon à Paris. Enquête qui fait suite à la plainte d'une patiente mineure de 17 ans. Après un match nul, Lille dispute ce soir son deuxième match des phases de poule de la Ligue des Champions. Ce sera contre Salzbourg, coup d'envoi à 21h, à suivre en fil rouge sur RTL.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps, Louis, ça s'améliore demain, c'est
exactement,
ça,
hein? On a eu un peu de pluie aujourd'hui, donc demain c'est temps sec. C'est un jour sur deux en ce moment, donc du temps sec pour tout le monde. On range le parapluie ce soir avec de belles éclaircies, quelques brumes, brouillard le matin, mais ça va vite disparaître. Et en cours d'après-midi, du grand soleil pour tout le monde, quelques nuages peut-être près de la Manche, avec un vent assez fort. Les températures, attention, peut-être les premières gelées en plaine demain matin, on n'en sera pas très loin dans beaucoup de régions. Et l'après-midi, 17 à 19 degrés dans la moitié nord, 19 à 21 dans le sud et encore 25 à 27 degrés sur le littoral méditerranéen.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL vous emmène dans les coulisses des réunions au sommet chez les Républicains. Parce que vous allez l'entendre, c'est un peu Astérix et la zizanie. Éric Zemmour grimpe dans les sondages et la droite se déchire sur la position à adopter. Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Le polémiste était même au menu hier d'un comité stratégique du parti, c'est dire.
Mais c'est même beaucoup plus que ça. Le cas Zemmour n'est pas simplement au menu. Il s'invite, il s'infiltre, il s'insinue partout chez les Républicains, dans les esprits et donc dans les instances. Hier, dans cette réunion entre cadors, trois quarts d'heure, juste pour s'écharper sur son cas, autour de la table ça fuse. « C'est un pétainiste !» lâche le député du Lot Aurélien Pradier. Le patron des députés LR, Damien Abad, répète qu'il faut, je cite, « construire une digue entre les Républicains et Éric Zemmour ». Il est obsédé par les musulmans, renchérit Rachida Dati. Vous parliez de la zizanie, Julien, mais c'est exactement ça. Comme le personnage dans Astérix, Éric Zemmour a ce don incroyable pour provoquer la dispute. Parce que chez les Républicains, vous trouvez aussi un Éric Ciotti qui s'est dit prêt à voter Zemmour en cas de second tour face à Emmanuel Macron, ou un François-Xavier Bellamy, eurodéputé, qui est lui prêt à accueillir Éric Zemmour dans la course à l'investiture LR pour 2022. Au milieu de tout ça, il y a le chef du parti, Christian Jacob, qui doit conserver un semblant d'unité. Et à ce niveau-là, ce n'est même plus de l'équilibrisme, c'est presque de l'art.
En fait, William, l'inquiétude, c'est de voir des électeurs LR séduits par Éric Zemmour.
Eh oui, c'est ça. Et c'est pour ça que la riposte anti-Zemmour est si dure à bâtir côté républicain. Difficile de le traiter publiquement de raciste, de pétainiste, de ce que vous voulez, quand vous savez que beaucoup de ceux qui ont voté François Fillon en 2017 peuvent peut-être pas basculer, mais apprécier, se retrouver dans le discours d'Éric Zemmour. Et ça, Éric Zemmour le sait très bien, il en joue à fond. Il dit « Je veux parler aux orphelins du RPR. S'il est bien candidat, il fera tout pour faire basculer des élus LR de son côté. Et tant que l'incertitude plane, la zizanie à droite, ça va continuer. »
Merci William Galibert de nous avoir éclairé sur cette zizanie, sur ces craintes à droite dans les dessous de l'actu, ce soir sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h33. Allez, c'est le moment de prendre l'air maintenant dans RTL Soir. Laissez-vous tenter dernière tous les soirs les bons conseils des amis de LVT, des conseils télé, des conseils ciné, des conseils musique. On va parler télé avec Isabelle Morini-Bosque ce soir. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Tiens, avant de parler de la soirée, on va revenir sur celle d'hier. Dites-moi, Koh-Lanta, c'est pas terrible en audience là?
Non, c'est pas en berne, mais c'est en baisse. Le programme n'atteint plus les 4 millions de fidèles, en tout cas pas hier. Et qui lui fait du tort? Alors, il y avait le rythme scolaire, le mardi, c'est pas un bonjour, mais on découvre que Alex Hugo, le flic des Alpages, lui nuit, parce que montagne oblige, ben il atteint des sommets, 5 900 000 fanas hier. Samuel Le Bihan lui-même avait un peu peur de perdre des fidèles en passant de mercredi au mardi, et ben il s'était trompé, et moi aussi. On en vient ce soir?
Allez, on y va.
L'événement, c'est l'émission Appel à Bien témoins, sûr. Deuxième édition, 21h M6, police, gendarmerie, chancellerie se retrouvent en direct sur le même plateau pour relancer des affaires non élucidées, avec en direct toujours des familles évoquant leur détresse, leur combat, leurs espoirs, leurs attentes. J'ai demandé au producteur Jean-Marie Goy, qui est aux affaires criminel, ce que Cyril Lignac est à la cuisine, de nous faire le bilan de la première.
Très bon bilan, 700 appels le soir de l'émission, 150 mails, donc les téléspectateurs ont répondu présents. D'autant que quelques jours seulement après la première émission, on a eu des dénouements. L'affaire Lucas Tronche, on a malheureusement retrouvé son corps dans la montagne. Et puis l'affaire Gaëlle Fossé, souvenez-vous, cette jeune fille poignardée 66 fois. Il y a eu, dans la foulée de l'émission, des gardes à vue, des arrestations. Donc régulièrement, nous donnerons des nouvelles de ses affaires.
Un auditeur de RTL m'a dit le petit Lucas Tronche s'était lancé avant la diffusion de l'émission, donc ils n'ont rien apporté.
Alors, parmi les gens qui appellent, il y a ce qu'on appelle, et c'est des policiers qui le disent, des conseilleurs. Des gens qui disent aux policiers, vous devriez aller fouiller là-bas. C'est ce qui s'est passé le lendemain de l'émission, à 8h30. La plupart des policiers présents sur le plateau sont allés sur place et ont commencé les fouilles. Voilà.
Je précise qu'il n'y a aucune reconstitution et les familles voient les reportages avant l'émission pour qu'ils n'aient pas le choc du
Bien
direct.
Sûr. Juste pourquoi vous m'avez demandé hors antenne tout à l'heure si j'avais une chanson d'amour préférée?
Parce que W9 fait le classement des 20 chansons d'amour préférées des Français. Il n'y a pas la mienne. Hein. Mais ça peut être l'amour filial, vous de Kate Papa.
Ah, comme Father and Son de Cat Stevens ou Mistral Gagnant.
Ah, bah alors on va prendre du franco-français,
d'accord,
si vous voulez bien. C'est Vianney qui démarre.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens, tant qu'il y en a.
Tout parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra,
en serrant dans ma main tes petits doigts.
Ça, c'est indémodable. Hein.
Quand vous pensez qu'il ne voulait pas l'enregistrer au départ.
Ben oui, c'est fou. W9 ce soir, c'est
W9,
ça.
W9,
très bien.
Classement.
On a le choix, grâce à vous, comme tous les soirs. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà le programme télé de votre soirée. À bientôt, Isabelle. Dans Laissez-vous tenter dernière. Et on vous retrouve demain, 9h-9h30.
Avec plaisir.
Pour la quotidienne, comme chaque matin, LVT le matin.
Laissez-vous tenter dernière.
Et on marque une très courte pause sur RTL. Avant, on défait le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
On a parlé d'Éric Zemmour il y a quelques minutes. C'est vrai qu'il grimpe dans les sondages. Alors nous nous sommes interrogés. Est-ce que cette hausse est artificielle? Pour mieux comprendre, eh bien nous allons vous expliquer dans un instant comment les instituts travaillent justement. A tout de suite.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.